day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Nous sommes le sac en grâce et carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent tout. Nous comprenons votre douleur, c'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession.
Bonsoir les Bandgeeks, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle chronique. Chronique que j'ai décidé d'introduire par cette chanson des Inconnus, que vous connaissez sans doute. Pourquoi cette chanson des Inconnus? Eh bien, tout bonnement parce que j'ai décidé ce soir de vous parler des films d'horreur. Et pour moi, l'horreur, ça s'incarnait par ce clip, puisque j'étais petite dans les années 90. Et donc, j'étais terrorisée devant ce clip des Inconnus. Donc voilà, tout ça pour dire que ce soir, on parle des films d'horreur des années 90. Cette décennie est considérée comme une période de transition pour le genre horreur. Les puristes, les fans d'horreur se moquent de cette décennie et la considèrent souvent comme d'un point bas dans le genre. Mais en y réfléchissant bien, il y a quand même quelques pépites, moins connues et des films aussi qui sont devenus emblématiques. Je me suis donc attardée sur les différents classements qui sont proposés sur internet de ces films d'horreur et vais revenir avec vous sur les tops de ces classements. On commence tout de suite par un grand classique, le top 1 de plusieurs classements. Et je vous dis rien, je vous laisse découvrir.
La forêt à l'époque de Halloween s'affiche la chair de poule à tout le monde. Je veux pas d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même.
Je veux demander pardon.
J'ai eu l'impression qu'il y avait une chose près de moi, ce genre de chose qui donne le frisson.
Ils ont fouillé sa maison et ils ont découvert les cadavres de sept gosses de la région.
Je viens de me réveiller il y a à peine 2 secondes. Il y a des petits tas de pierres devant notre tente.
Je regrette.
Oh merde!
Dis maintenant, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet.
J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir.
Sorti en 1999, le tout premier film, Le Projet Blair Witch, accompagne parfaitement deux innovations majeures de l'époque, Internet et le found footage. La combinaison de ces deux éléments est très bien maîtrisée par les réalisateurs et a pu élever le film au statut donc de film culte. Bien évidemment, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez n'ont ni inventé Internet ni le found footage. Ils ont cependant su utiliser au mieux ces deux outils pour valoriser leurs créations et leurs idées. Le found footage désigne la récupération de pellicules ou de bandes vidéo dans le but de fabriquer un autre film. On parle de réemploi, de détournement de matériaux vidéo. Ces techniques sont utilisées notamment dans le cinéma expérimental et le documentaire. L'expression désigne maintenant un sous-genre du cinéma fantastique, donc popularisé par le projet Blair Witch. Depuis, beaucoup d'autres films ont été faits avec cette technique. On pense notamment à Paranormal Activity. Alors, revenons donc sur ce film mythique qui a fait flipper bon nombre d'adolescents au début des années 2000. De quoi ça parle ? Nous sommes en octobre 1994. Trois jeunes cinéastes, Heather Donahue, Joshua Leonard et Michael Williams, disparaissent en randonnée dans la forêt de Black Hills au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard, on a retrouvé le film de leur enquête. Le projet Blair Witch suit l'itinéraire éprouvant des trois cinéastes à travers la forêt de Black Hills et rend compte des événements terrifiants qui s'y sont déroulés. À ce jour, les trois cinéastes sont toujours portés disparus. La bande-annonce du film et le pitch sèment clairement le doute. Sommes-nous en présence d'une pure œuvre de fiction ou alors d'un documentaire ? Le synopsis insiste largement sur le fait que les trois jeunes passionnés de cinéma n'ont pas été retrouvés. Ceci est d'autant plus ambigu lors de la sortie du film que les trois acteurs jouent leur propre rôle environ 2 ans après avoir shooté les images dans la forêt. En effet, le tournage a eu lieu en 1997 et donc le film sorti en 1999. Il faut déjà comprendre ce qu'il se passe vraiment dans cette mystérieuse forêt de Black Hills. La légende locale décrit cette forêt comme hantée depuis le XVIIIe siècle. Au cours de la première partie du film Blair Witch, les trois réalisateurs en herbe interviewent des habitants de Burkittsville. Les locaux ont tous des histoires sordides à propos de cette forêt maléfique. Les réalisateurs ont été beaucoup plus loin et ont même monté un faux documentaire Curse of the Blair Witch pour amplifier l'aspect réel de la disparition des acteurs dans le film Blair Witch. De plus, ils ont propagé des fausses news sur le fait qu'il s'agissait d'une réelle vidéo retrouvée en forêt et non pas d'un film. Donc tout ça a alimenté le mythe et fait le succès du film. Le mythe a du mal à s'effacer aujourd'hui. Le film en lui-même et sa fin contribuent largement à préserver le mystère. Si j'en avais le temps, j'aurais pu vous parler de bon nombre de films d'épouvante des années 90 qui m'ont marqué. Comme Le silence des agneaux, sorti en 91 et réalisé par Jonathan Demme. Seven, de David Fincher, sorti en 95. Entretien avec un vampire, de Neil Jordan, sorti en 94. Ou Scream, de Wes Craven, sorti en 1996. Et aussi, on aurait pu parler de deux adaptations de deux romans de Stephen King. Misery, sorti en 90 et réalisé par Rob Reiner. ou encore ça, le film réalisé par Tommy Lee Wallace en 90. Mais j'ai décidé de m'arrêter sur un autre film, un film que j'ai découvert finalement récemment grâce à ses propositions de classement, un film que je n'avais pas vu en 90 ni dans les années qui suivent, mais vous le verrez, qui a aussi un lien avec Stephen King. Ce film s'appelle L'Antre de la Folie.
Les émeutes ont commencé quand les librairies ont été incapables de faire face à la masse de commandes pour le roman de Sutter Kane, L'Antre de la Folie.
Kane a disparu il y a 2 mois sans laisser la moindre trace. Ce type qui écrit ses horreurs bon marché.
Vous pouvez faire une croix sur Stephen King. Kane se vend beaucoup mieux. Je dois savoir s'il est en vie ou s'il est mort. Il me faut ce livre.
C'est un coup monté. Il faut que j'arrive à savoir comment il a été monté, c'est tout.
Les romans de Kane ont toujours eu un impact très fort sur les lecteurs.
C'est une carte. Vous avez organisé cette mascarade.
Fichez le camp.
Ce n'est pas réel.
Tout ce qui s'est passé, c'est la réalité.
Ce livre va rendre les gens complètement fous.
Eh bien, espérons-le. Le film sort le mois prochain.
L'antre de la folie.
In the Mouth of Madness est un film américain réalisé par John Carpenter et qui est sorti en 1995. Largement réhabilité aujourd'hui, John Carpenter a pour autant passé la majeure partie de sa carrière à entraîner échecs commerciaux et critiques tièdes, voire glaciales, et ne doit sa popularité qu'à une petite communauté de cinéphiles amateurs de récits fantastiques et au suivi culte de ses œuvres. En 1994, lorsque l'auteur sort L'Antre de la Folie, sa position est précaire, plus que jamais d'ailleurs. En 20 ans de carrière, John Carpenter n'a jamais réussi qu'à rentabiliser ses films les plus fauchés, et chacun de ses gros budgets a plus ou moins fait un bide. Le film L'Antre de la Folie ne déroge pas à la règle et est un échec au box-office. S'il reçoit des critiques assez mitigées à sa sortie, il est peu à peu réhabilité au fil du temps. Pour son 13e film, John Carpenter nous fait suivre les aventures de John Trent, un enquêteur pour les assurances chargé de retrouver un écrivain d'épouvante disparu. Mais peu à peu, il va se rendre compte que les romans écrits par celui qu'il recherche sont de plus en plus réels. John Carpenter nous envoie tout droit dans son monde, inspiré donc de l'univers de Stephen King, et ce de manière effrayante, mystérieuse et parfois même fascinante. Il aborde différents thèmes, la religion, la folie, et ce de belle manière, il sait jouer avec les clichés. Sa maîtrise technique est impeccable et sa mise en scène superbe, capable de créer de la terreur, de la tension et même du suspense. Très référencé, le film renvoie à Stephen King pour le côté écrivain de best-seller horrifique. Celui-ci d'ailleurs est nommément cité dans le film, mais surtout renvoie à Howard Phillips Lovecraft pour le passage progressif vers un univers cauchemardesque où des entités anciennes et oubliées, aussi mauvaises que puissantes, attendent leur heure pour détruire l'humanité. En effet, le thème de la folie est essentiel dans l'œuvre lovecraftienne. John Carpenter, qui bien que n'adaptant pas une histoire de l'écrivain, lui rend hommage en s'inspirant de son univers. En suggérant une indicible menace plus qu'en la montrant, il intègre le style de Lovecraft à son œuvre. L'Antre de la Folie est le dernier volet d'une trilogie informelle de John Carpenter, dite Trilogie de l'Apocalypse. Les deux précédents volets étant The Thing, sorti en 82, et Le Prince des Ténèbres en 87. Si le film ne marque pas exactement le sommet de l'œuvre de John Carpenter, comme on l'a un peu vite affirmé, on va dire que The Thing reste largement indétrônable, c'est assurément un film passionnant et qui contient parmi les plus belles scènes tournées par le cinéaste. Ce qui frappe 25 ans après, c'est l'ambition démesurée qui agite le film de toutes parts et loin de faire sombrer dans le ridicule, lui confère une forme mutante qui rejoint celle de ses créatures. En un peu plus d'une heure et demie, Carpenter croise le fer avec la schizophrénie, l'apocalypse, la création, les grands maîtres de la littérature fantastique et les mécanismes du genre horrifique au cinéma. « C'en est fini de cette chronique cinéma sur les films d'épouvante des années 90. Je vous laisse écouter la bande originale du film L'Antre de la Folie et je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
I want you. spéciale dédicace à mes filles. Et à toi plus particulièrement, Gabi, qui est fan. Cette année, c'est le 30e anniversaire de l'album Nevermind des Nirvana. Je me souviens, en 1991, quand j'entends pour la première fois le riff de Smell Like Teen Spirit, pour l'adolescent que j'étais, c'est un appel irrésistible à la danse. Je me souviens que lorsque les premières notes du riff sonnaient dans les haut-parleurs de la boîte de nuit, les conversations s'arrêtaient net, tout le monde se précipitait sur la piste de danse, quelques notes de la guitare de Kurt Cobain et de sa voix éraillée. Mais surtout la basse puissante de Chris Novoselic nous plongeait dans la transe. Je me souviens que les breaks à la batterie du nouveau batteur du groupe Dave Grohl nous déchaînaient dans un pogo endiablé au moment du refrain « With the lights out, it's less dangerous, here we are now, entertain us ». La voix de Kurt Cobain se brisait dans nos tympans et déchaîner notre sauvagerie intérieure. Un exutoire parfait, venu du fond des tripes, brut et sauvage, comme la saturation de sa guitare. Avant l'enregistrement de l'album, elle doit son nom à une référence faite par une amie de Kurt Cobain à une marque de déodorant nommée Teen Spirit, alors que Kurt Cobain pensait y voir une allusion anarchiste. Le titre utilise une dynamique inspirée des Pixies, qui joue sur l'alternance entre couplet calme et refrain puissant, avec un riff principal à quatre accords. C'est une sorte d'hymne ironique, presque auto-parodique de l'esprit jeune, entre guillemets, des années 90. À la fois un cri de révolte autodestructeur et un coup de gueule contre l'apathie d'une jeunesse désabusée. La chanson parle du mal-être, de cette douleur de vivre et de la dépression que sentait Kurt Cobain, mais qui résonne en tout adolescent qui traverse des moments de transformation violente, de décalage face à la réalité, du sentiment d'humiliation et de l'absurde face à notre société malade, où tout doit être ludique et amusant, tout doit être vendable. Here we are now. Voilà, nous y sommes. Nous sommes là, dans ce monde pourri et déprimant. Alors amuse-nous, entertain us. On éteint la lumière, with the lights out, et on hurle sa rage. D'ailleurs, ce monde, on le nie. On lui crache à la gueule. On n'a que mépris et déni pour lui. The Denial, qui achève la chanson en un climax de déchaînement de rage. Le grunge des Nirvana est fils du punk, dont il porte toute la noirceur. Dans un projet de bio destiné à la maison de disques pour Nevermind, Kurt Cobain déclare, deux points ouvrez les guillemets, « Le rock est l'expression de la liberté en musique, ce qui veut dire faire et jouer ce qu'on veut. Nirvana signifie se délivrer de la douleur et de la souffrance du monde extérieur. Et ça rejoint ma définition du punk rock. » Point, fermez les guillemets. Je trouve cette citation dans le journal de Kurt Cobain, aux éditions 10-18, à la page 187. Kurt Cobain et Chris Novoselic se rencontrent pour la première fois en 1984 à la salle de répétition des Melvins à Aberdeen, État de Washington. Bien que le premier veuille déjà monter un groupe avec le second, ce n'est qu'en 1987 qu'ils commencent à jouer ensemble. Vont se suivre une succession de batteurs jusqu'à arriver au recrutement de Dave Grohl qui marque définitivement le groupe d'une touche à la fois brutale et technique. Ces breaks sont incomparables et constituent les fondations de chaque musique du groupe. Kurt Cobain n'a jamais supporté cette image de star planétaire du grunge, les flashs, les paparazzi qui gavent la presse à scandale de ses consommations excessives de drogue. En 1993, le groupe sort son troisième et dernier album studio, In Utero. Nirvana veut renouer avec le son brut de leur premier album, Bleach. Dans un premier temps, l'album est déclaré inaudible. Certaines chansons sont alors revues et remixées. Équilibrées entre chansons punk et mélodies pop, ces paroles plus directes se rapportent presque toutes à des maladies ou à des souffrances, reflet de l'état de santé de son compositeur, bien qu'il ne le reconnaisse pas. Il n'a jamais pu encaisser cette pression du star system et du business qui pesait sur le groupe. Moins il faisait de promotion de leur album, moins il donnait d'interviews et plus il vendait de disques et était harcelé. Plus tard, ce harcèlement médiatique pèsera lourd sur les frêles épaules d'Amy Winehouse, qui mourra à 27 ans comme lui. Kurt a la beauté d'un ange déchu, la splendeur hypnotique d'un ange maladif. Cette morbidité, il la porte en lui. La mort l'accompagne comme son ombre et lui confère une aura fascinante, à la fois romantique et déglinguée. D'ailleurs, le MTV Unplugged in New York du 18 novembre 1993 a déjà des accents de concert testament, les couleurs d'un enterrement, les échos d'un adieu, d'autant plus après coup. Après certaines complications, Nirvana accepte d'enregistrer un concert unplugged au studio télé MTV à New York. Comme en tournée, Nirvana est accompagné du guitariste Pat Smear, tandis que la violoncelliste Laurie Goldstone du Black Cat Orchestra participe également au concert. La décoration du plateau s'est faite sur les conseils de Kurt Cobain. Ainsi, il a été préparé comme pour un enterrement, avec des lys blancs, des chandelles noires et un lustre en cristal. Contrairement aux autres artistes passés dans l'émission, le groupe choisit de filmer le concert en une seule prise. La scène est magnifique. Autant la préparation a été tumultueuse et tendue, autant l'ambiance live est détendue, simple, comme une répétition entre potes. Ils invitent sur scène les frères Kirkwood, des Meat Puppets, un groupe de la scène underground de Seattle qu'ils admirent. Au milieu des fleurs de lys et des bougies, nombreux sont les moments de grâce, comme la reprise de David Bowie, The Man Who Sold the World, Plateau, ou la reprise finale, Where Did You Sleep Last Night, où les accords du violoncelle donnent une amplitude planante à la musique. Et bien sûr, Dump. Merci de votre écoute. I'm not like them, back in pretend. The sun's gone, the heaven light. The deed's done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy.
Want to play these two songs in a row because they're exactly the same song. So, ready?
Radio G.
Just want to tell you.
101.5 FM.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife and goods, it's bringing her down. Sometimes I sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. So I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me.
Chers auditeurs, on continue ce soir pour cette émission spéciale années 90 par une petite chronique série. Alors, de Beverly Hills à Buffy, en passant par Code Lisa ou Friends, je vous propose de faire un court récap sur ces séries, plus ou moins cultes, qui ont bercé ma jeunesse. Effectivement, j'avais 12 ans dans les années en 2000. Et peut-être la vôtre, si vous êtes né dans les années 90. Je vous propose de commencer par une sorte de mini-quiz pour que vous puissiez tenter de retrouver le titre de séries américaines, puisqu'il s'agit beaucoup de séries américaines qui ont marqué les années 90. On écoute tout de suite.
Affaires à 200 à l'heure. Leurs adversaires, trafiquants de voitures, dealers, assassins et terroristes. Intervention 24 heures sur 24 pour les hommes de Cobra 11, car notre sécurité est leur métier.
Bon, je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin avec Alerte Cobra, dont le générique a des alertes de publicité qui me fait beaucoup rire. Alors, vous avez pu entendre, sinon, X-Files, une série qui a débuté en 93, qui a terminé en 2002, Beverly Hills, qui a traversé toute la décennie, Urgence, qui a une vie plus longue de 94 jusqu'à 2009, Melrose Place, qui a duré jusque dans l'année 99, Sex and the City, de 98 à 2004, Buffy, contre les vampires, de 97 à 2003. Vous avez pu entendre aussi FX, Effets spéciaux, qui a eu une courte vie, pendant 2 ans à partir de 96, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, de 93 à 97, The Sentinel, de 96 à 99, et pour terminer, une série que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Bugs, qui aussi a une durée de vie assez courte, puisqu'elle a duré 4 saisons, de 95 à 99. J'en ai oublié beaucoup. Twin Peaks, Oz, Spin City, Charmed, Code Lisa, Une Nounou d'Enfer, Le Prince de Bel-Air. Donc voilà, on avait un panel de séries assez variées et pour tous les goûts. J'ai décidé ce soir de revenir sur 2 séries assez différentes que j'ai regardées étant plus jeune et voilà, qui ont marqué mon esprit. Il s'agit de Code Quantum et de Ally McBeal. Alors, tout d'abord, Code Quantum. Cette série a été créée par Donald Pellisario. Elle a été diffusée sur NBC pendant 5 saisons, de 89 à 93, et il y a eu au total 97 épisodes. C'est une série, une très très bonne série SF que je vous invite à découvrir, même si elle est difficilement trouvable sur des plateformes. Donc, Code Quantum raconte la façon dont, en 1999, Sam, qui est joué par Scott Bakula, brillant scientifique, teste une machine temporelle et se retrouve prisonnier dans le passé, passant à chaque épisode d'un personnage à l'autre. Sam se rend rapidement compte qu'il arrive à chaque fois dans la peau de quelqu'un capable de résoudre un problème ou vivant une situation dont il faut sortir. Il est aidé dans sa quête par Al, qui est joué par Dean Stockwell, son meilleur ami et qui est resté en 1999. Il parvient à se rendre dans le passé sous la forme d'un hologramme qui passe à travers les murs et les objets, et seul Sam peut voir le voir et l'entendre. Les deux héros de la série peuvent être résumés comme un chevalier blanc intrépide, rationnel, brillant, redresseur de tort aux sentiments assez complexes, Sam, et un roublard irrationnel multipliant les conquêtes et le bon vivant, qui est le personnage de Hal. C'est simple, les règles sont hyper simples, Sam Beckett ne peut pas remonter dans le temps au-delà de sa ligne de vie. Donc il est né en 53 et ne peut pas se rendre au-delà de l'année 99. Chaque fois qu'il arrive dans la peau de quelqu'un, à une nouvelle époque, nous voyons Sam, mais tout le monde voit la personne qu'il incarne, que nous, spectateurs, ne découvrons que quand il passe devant un miroir, quand il voit une photo ou par rapport à son reflet. Enfin, en se projetant dans le temps, Sam a entièrement perdu la mémoire et ses souvenirs lui reviennent petit à petit. À la fin de chaque épisode, Sam règle le problème qui lui a été soumis et finalement retraverse le temps. Ce moment, généralement assez punchy, est l'occasion d'avoir un aperçu de ce qui nous attend dans le prochain épisode. Là où cette idée est très intéressante, c'est qu'elle sert de teaser et que ça crée un rendez-vous pour les fans. On se demande dans quelle situation va-t-il encore se retrouver. Et ça permet de patienter jusqu'à la semaine suivante, créant une impatience pour le spectateur. Donc ça nous permet aussi d'avoir finalement d'explorer l'histoire des États-Unis au travers d'événements marquants du XXe siècle. On peut voir aussi Sam qui croise de multiples stars dans leur jeunesse. À travers certains de ces épisodes, la série épouse aussi l'imagerie cinématographique de certaines époques, du film noir ou du film de guerre, comme lorsque la série abordera justement la guerre du Vietnam. La série aussi a une dimension philosophique, ce qui va plaire à Pablo. Et si Sam avait été envoyé dans le passé par quelqu'un ? C'est la théorie parfois sous-entendue par la série lorsque certains épisodes voient Sam se confronter à des anges et des démons venus eux aussi pour régler ou provoquer des événements. Dès lors, que croire ? Sam est-il humain, mort lors de sa tentative de voyage dans le temps, et qui serait devenu un ange ? Et puis il reste l'épisode final, étrange, mystique et déstabilisant, mais qui ose proposer une conclusion inattendue à la série. Je vous laisserai donc la découvrir. choisi de vous parler également de Ally McBeal, parce que déjà c'était une série mais ultra culte pour moi dans les années 90, que j'ai regardé plutôt dans les années 2000, parce que j'étais un peu trop jeune pour regarder ça dans les années 90, mais ça a vraiment marqué ma jeunesse. Et je vous en parle parce que une suite serait éventuellement en cours de préparation, en tout cas c'est ce qu'affirme le site TV Line, qui vient de dévoiler cette actualité. Le rôle serait bien repris par l'actrice d'origine qui s'appelle Calista Flockhart et qui joue le rôle donc de Ally McBeal. En attendant de voir s'il y aura suite ou pas, je vous propose de vous parler de la première qui a été diffusée sur la Fox en 97 et qui est devenue un phénomène de la pop culture. La série a remporté l'Emmy Award de la meilleure série comique en 1999, ainsi que deux Golden Globes dans la même catégorie en 97 et 98. On retrouvait au casting de cette série beaucoup d'acteurs qui ont ensuite continué soit dans des séries, soit au cinéma. On a eu notamment Lucy Liu, qui a joué donc ensuite dans Charlie Angels notamment. Il y avait Courtney Thorne-Smith qui jouait dans Melrose Place également, Greg German qu'on a vu dans Grey's Anatomy, Jen Krakowicz dans 30 Rock, Peter McNichol dans Numbers et Portia de Rossi dans Arrested Development. Et on retrouve également dans la quatrième saison de Ally McBeal le Robert Downey Jr. qui a rejoint le casting et qui était à ce moment-là l'amoureux de l'avocate trentenaire passionnée, romantique et loufoque. Alors finalement, Ally McBeal, c'était quoi ? Une avocate trentenaire aux jupes ultra courtes, au comportement involontairement maladroite et aux hallucinations régulières, fait ses premiers pas à la télévision américaine. Elle vient de quitter son job précédent pour cause de harcèlement sexuel et de rejoindre la firme bostonienne Cajun Fish. Empathique, beaucoup trop, romantique, ambitieuse, farfelue, Alice se débat parmi ses désirs contradictoires et lutte contre ses fameuses horloges biologiques qui ne manquent pas de se rappeler aux bons souvenirs des femmes sans enfants ayant dépassé les 30 ans. Donc la particularité de la série de David Kelley est en effet de retranscrire les états d'âme de son héroïne par des insertions d'éléments surréalistes, un procédé qui finira par gagner aussi les autres personnages. Donc le personnage d'Ally McBeal est à la fois très ancré dans son époque, même si on a pu critiquer certaines scènes, parfois aussi le physique de Ally McBeal, assez mince pour l'époque, mais c'était aussi le reflet de la société. Donc, la série avait quand même compris pas mal de choses avant tout le monde, et via les affaires du cabinet qui apportaient leur lot de personnages éphémères, la série s'attaquait régulièrement à des sujets de société. La série a le mérite de s'intéresser à la diversité des êtres humains, qu'ils soient issus de milieux populaires, des différentes minorités culturelles ou sexuelles, ou encore d'âges divers. Contrairement à une écrasante majorité des séries des années 90, le créateur de la série met en scène des personnages afro-américains comme René, qui était incarné à l'époque par Lisa Nicole Carson, d'origine chinoise comme Ling, ce qui a fait décoller la carrière de Lucy Liu, ou encore de travestis comme l'excentrique Dame Edna. Alors c'est encore parfois assez maladroit. Ling est par exemple le stéréotype de la méchante asiatique aux tendances SM, mais en même temps, la série ayant duré 5 saisons, elle va heureusement faire avancer ses personnages féminins de façon spectaculaire, se faisant le reflet d'une époque en pleine période d'éveil. Pour terminer sur Ally McBeal et les séries des années 90, je vous propose d'écouter une scène culte de la série. Et moi, à chaque fois que j'entends Barry White, je vois les personnages de Ally McBeal danser dans les toilettes. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. First, my
I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Oh.
Radio G 101.5 FM.